última revolución, nuestra patria cuenta numerosos y heroicos mártires. Frédéric, encore une fois, voulut se faire entendre. Mais, citoyen, l'Espagnol continuait. El martes próximo tendrá lugar en la iglesia de la Magdalena un servicio funèbre. C'est absurde à la fin, personne ne comprend. Cette observation exaspéra la foule. À la porte, à la porte. Qui, moi ? Demanda Frédéric. Vous-même, dit majestueusement Sénécal, sortez. Il se leva pour sortir, et la voix de Libérien le poursuivait. Y todos los españoles desearían ver allí reunidas las deputaciones de los clubs y de la milicia nacional. Una oración funebre en honor de la libertad española y del mundo entero será pronunciada por un miembro de clero de París en la sala Bonne Nouvelle. Honor al pueblo francés, que la maría yo el primero pueblo del mundo si no fuese ciudadano de otra nación. Aristo, glapit un voyou en montrant le poing à Frédéric qui s'élançait dans la cour, indigné. Il se reprocha son dévouement, sans réfléchir que les accusations portées contre lui étaient justes, après tout. Quelle fatale idée que cette candidature! Mais quels ânes, quels crétins! Il se comparait à ces hommes et soulageait avec leur sottise la blessure de son orgueil. Puis, il éprouva le besoin de voir Rosanette. Après tant de laideur et d'emphase, sa gentille personne serait un délassement. Elle savait qu'il avait dû, le soir, se présenter dans un club. Cependant, lorsqu'il entra, elle ne lui fit pas même une question. Elle se tenait près du feu, décousant la doublure d'une robe. Un pareil ouvrage le surprit.
« Tiens, qu'est-ce que tu fais ?»«
Tu le vois, » dit sèchement. « Je raccommode mes hardes. C'est ta république. »«
Pourquoi ma république ?»«
C'est la mienne, peut-être. » Et elle se mit à lui reprocher tout ce qui se passait en France depuis 2 mois, l'accusant d'avoir fait la révolution, d'être cause qu'on était ruiné, que les gens riches abandonnaient Paris et qu'elle mourrait plus tard à l'hôpital.
Tu en parles à ton aise, toi, avec tes rentes. Du reste, au train où dont ça va, tu ne les auras pas longtemps, tes rentes.
Cela se peut, dit Frédéric. Les plus dévoués sont toujours méconnus, et si l'on avait pour soi sa conscience, les brutes avec qui l'on se compromet vous dégoûteraient de l'abnégation.
Rosanette le regarda, les cils rapprochés.
Hein, quoi ? Quelle abnégation ?
Monsieur n'a pas réussi, à ce qu'il paraît ?
Tant mieux. Ça t'apprendra à faire des dons patriotiques. Oh, ne mens pas. Je sais que tu leur as donné 300 francs, car elle se fait entretenir, ta république. Eh bien, amuse-toi avec elle, mon bonhomme. »
Sous cette avalanche de sottises, Frédéric passait de son autre désappointement à une déception plus lourde. Il s'était retiré au fond de la chambre. Elle vint à lui.
« Voyons, raisonne un peu. Dans un pays comme dans une maison, il faut un maître. Autrement, chacun fait danser l'anse du panier. D'abord, tout le monde sait que le Dru Rollin est couvert de dettes. Quant à la Martine, comment veux-tu qu'un poète s'entende à la politique ? Ah, tu as beau hocher la tête et te croire plus d'esprit que les autres, c'est pourtant vrai. Mais tu ergotes toujours. On ne peut pas placer un mot avec toi. Voilà par exemple Fournier Fontaine, des magasins de Saint-Roch. Sais-tu de combien il manque ? De 800 000 francs. Et Gomère, l'emballeur d'en face. Un autre républicain, celui-là. Il cassait des pincettes sur la tête de sa femme et il a bu tant d'absinthe qu'on va le mettre dans une maison de santé. C'est comme ça qu'ils sont tous, les républicains. Une république à 25%. Ah oui, vante-toi.
Frédéric s'en alla. L'ineptie de cette fille, se dévoilant tout à coup dans un langage populacier, le dégoûtait. Il se sentit même un peu redevenu patriote. La mauvaise humeur de Rosanette ne fit que s'accroître. Mademoiselle Batenaz l'irritait par son enthousiasme. Se croyant une mission, elle avait la rage de pérorer, de catéchiser, et, plus forte que son amie dans ces matières, l'accablait d'arguments. Un jour, elle arriva tout indignée contre Hussonnet, qui menait de se permettre des polissonneries au club des femmes. Rosanette approuva cette conduite, déclarant même qu'elle prendrait des habits d'homme pour aller leur dire leur fête à toutes et les fouetter. Frédéric entrait au même moment. « Tu m'accompagneras, n'est-ce pas ?» Et malgré sa présence, elles se chamaillèrent, l'une faisant la bourgeoise, l'autre la philosophe. Les femmes, selon Rosanette, étaient nées exclusivement pour l'amour ou pour élever des enfants, pour tenir un ménage. D'après Mademoiselle Batenaz, la femme devait avoir sa place dans l'État. Autrefois, les Gauloises légiféraient. Les Anglo-Saxonnes aussi. Les épouses des Hurons faisaient partie du Conseil. L'œuvre civilisatrice était commune. Il fallait tout y concourir et substituer enfin à l'égoïsme la fraternité, à l'individualisme l'association, au morcellement la grande culture. Allons bon, tu te connais en culture à présent. Pourquoi pas? D'ailleurs, il s'agit de l'humanité, de son avenir. Mêle-toi du tien, ça me regarde. Elle se fâchait. Frédéric s'interposa. La Vatnaze s'échauffait et arrivait même à soutenir le communisme. « Quelle bêtise !» dit Rosanette. « Est-ce que jamais ça pourra se faire ?» L'autre citait en preuve les Esséniens, les frères Moraves, les jésuites du Paraguay, la famille des Pingons près de Thiers, en Auvergne. Et comme elle gesticulait beaucoup, sa chaîne de montre se prit dans son paquet de breloques à un petit mouton d'or suspendu. Tout à coup, Rosanette pâlit extraordinairement. Mademoiselle Vatnaze continue à dégager son bibelot. « Ne te donne pas tant de mal, » dit Rosanette. « Maintenant je connais tes opinions politiques. »« Quoi ?» reprit la Vatnaze, devenue rouge comme une vierge. « Oh, tu me comprends. » Frédéric ne comprenait pas. Entre elles, évidemment, il était survenu quelque chose de plus capital et de plus intime que le socialisme. « Et quand cela serait ?» répliqua la Vatnaze, se redressant intrépidement. « C'est un emprunt, ma chère, dette pour dette. » Parbleu, je ne nie pas les miennes. Pour quelques 1000 francs, belle histoire. J'emprunte au moins, je ne vole personne. » Mademoiselle Vatnaze s'efforça de rire. « Oh, j'en mettrai ma main au feu. Prends garde, elle est assez sèche pour brûler. » La vieille fille lui présenta sa main droite et la gardant levée juste en face d'elle. « Mais il y a de tes amis qui la trouvent à leur convenance. Des Andalous alors, comme Castagnette, Gueuse. » La maréchale fit un grand salut. « On n'est pas plus ravissante. » Mademoiselle Vatnaze ne répondit rien. Des gouttes de sueur parurent à ses tempes. Ses yeux se fixaient sur le tapis. Elle haletait. Enfin, elle gagna la porte et la faisant claquer vigoureusement. « Bonsoir, vous aurez de mes nouvelles. À l'avantage, » dit Rosanette.
Sa contrainte l'avait brisée. Elle tomba sur le divan, toute tremblante, balbutiant des injures, versant des larmes. Était-ce cette menace de la Vatnaze qui la tourmentait? Eh non, elle s'en moquait bien. À tout compter, l'autre lui devait de l'argent, peut-être. C'était le mouton d'or, un cadeau. Et au milieu de ses pleurs, le nom de Delmar lui échappa. Donc elle aimait le cabotin. Alors, pour comment a-t-elle pris? Se demanda Frédéric. D'où vient qu'il est revenu? Qui la force à me garder? Quel est le sens de tout cela? Les petits sanglots de Rosanette continuaient. Elle était toujours au bord du divan, étendue de côté, la joue droite sur ses deux mains, et semblait un être si délicat, inconscient et endolori, qu'il se rapprocha d'elle et la baisa au front, doucement. Alors, elle lui fit des assurances de tendresse.